C'est l'heure de la question du jour. La COP23, la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, s'est ouverte hier à Bonn, en Allemagne. Jusqu'au 17 novembre, les représentants de près de 200 pays sont réunis pour faire appliquer l'accord de Paris, conclu en 2015. Rappelons que cet accord, signé par 195 États, a pour objectif de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés Celsius, si possible sous la barre des 1,5 degrés. Bonjour Ami Dahan.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne des sciences, directrice de recherche émérite au CNRS. Alors en 2015, la COP21 se concluait par la signature de l'accord de Paris, un accord jugé historique. Depuis, il y a eu la COP22 en 2016 à Marrakech et puis depuis hier, donc commence la COP23 du côté de Bonn. Concrètement, qu'attendre de cette nouvelle conférence? Quels sont les objectifs de cette COP23, Ami Dahan?
À vrai dire, les objectifs de la COP23, c'est d'avancer dans le chemin tracé par la COP15, qui lui-même nous donne comme tracé pour les premières années que quelque chose d'assez long. Hein. Donc cette année, il y a comme objectif d'essayer d'avancer dans les mécanismes de transparence, qu'on appelle les mécanismes de transparence, c'est-à-dire comment les pays vont, est-ce qu'on aura confiance dans la façon dont ils déclarent leurs émissions, dont ils déclarent ce pourquoi ils se sont engagés et comment ils le prennent en main, etc. Ça, c'est un des éléments très importants de l'ordre du jour. Et un autre élément, c'est d'avancer aussi dans la question du fonds vert, ce qu'on appelle le fonds vert, c'est-à-dire ramasser de l'argent. On a donné comme promesse qu'à partir de 2020, on donnerait 100 milliards par an aux pays en développement. Bah, comment y arriver ? Et voilà. Et ça.
Donc le mécanisme de transparence et le fonds vert, voilà deux éléments, deux enjeux très importants de cette COP23. Ami Dahan, l'année 2017, on l'a vu, a été particulièrement inquiétante en termes de catastrophes naturelles. On a eu des ouragans aux Antilles, on a eu des feux d'une intensité inédite au Portugal, en Californie. Alors bien sûr, les scientifiques sont très prudents sur la corrélation entre ces phénomènes et le dérèglement climatique. Mais en tout cas, tous s'accordent pour dire que ce dérèglement climatique, il aggravera de toute façon les phénomènes de catastrophes naturelles. En 2015, les États avaient présenté des engagements de réduction de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on est là aujourd'hui sur la bonne voie pour respecter ces engagements ?
Écoutez, l'accord de Paris, on savait et on le sait toujours, et je le répète, c'est un accord qui bon est encourageant, etc., mais qui reste un accord sur le papier. Il faut que les choses se mettent en œuvre matériellement. Une transition énergétique de l'ampleur de celle qui est exigée par la situation actuelle et la dégradation du climat, parce que nous sommes évidemment dans une course de vitesse, eh bien, on n'est pas encore à la hauteur. Et le président, par exemple, de l'Organisation météorologique mondiale, hier à Bonn, a dressé un tableau assez effrayant de l'évolution des choses.
Oui, on est visiblement pour le moment sur une courbe qui devrait faire monter le mercure de plus de 3 degrés Celsius d'ici 2100. Donc c'est évidemment assez inquiétant. Parlons un petit peu de gouvernance et en particulier des États-Unis, Ami Dahan, puisqu'en juin dernier, Donald Trump avait annoncé son intention de se désengager de l'accord de Paris. Mais comme souvent avec lui, il y a des signaux très contradictoires concernant ce que pourrait être la politique climatique des États-Unis durant son mandat. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que les États-Unis vont totalement se dissocier des efforts internationaux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, Ami Dahan ?
D'une part, je crois qu'il faut constater quand même que la déclaration de Trump n'a pas provoqué une envolée de pays qui le suivraient. C'est-à-dire aucun État n'a emboîté le pas à Trump ou a dit si les États-Unis font ça, nous aussi on va se sortir, etc. Bon, ça c'est une première chose. Ça prouve que le climato-scepticisme, au moins au niveau des gouvernements affichés, n'est plus de mise. Il n'est plus question d'en parler. Donc on est quand même très loin de la situation d'il y a 20 ans au moment du protocole de Kyoto, etc. Par contre, on sait très bien que cette déclaration de Trump et la façon dont la délégation américaine est quand même présente en effectif assez réduit, hein, ils sont dans la quarantaine de personnes, alors que la France est 4 fois plus, que certains pays sont 5 ou 6 fois plus, etc. Donc ça, c'est important, parce que c'est les contacts, c'est la présence dans différentes commissions, il y a beaucoup de négociations parallèles, etc. Donc ça traduit quand même quelque chose. Hein.
Et s'agissant, Amida, peut-être, parce qu'il faut essayer de faire le tour un peu des choses, de la Chine, parce que l'un des objectifs de cette COP23, c'est aussi de reconstruire un leadership. Et cette annonce, justement, de Donald Trump de se retirer de ce texte, et bien sûr, ça constitue une opportunité assez intéressante pour la Chine, qui a l'intention non seulement de respecter cet accord, mais même d'aller au-delà. Il y a là, pour Pékin, une formidable opportunité pour prendre le leadership mondial en matière environnementale.
Oui, elle le revendique. Bon, ce qui est très important, c'est de savoir comment ça va se passer, parce que ça ne peut se passer qu'avec l'Europe et peut-être avec le Canada. Parce que la Chine seule, honnêtement, elle veut appliquer l'accord. Elle a pris des engagements. Mais pour moi, ces engagements, ils sont conformes à ses intérêts économiques à elle. C'est-à-dire qu'elle ne réduit pas en valeur absolue ses émissions. Elle réduit en intensité énergétique ses émissions. Donc, il continue quand même à augmenter, mais moins que sa croissance. Voilà, c'est ça l'objectif, hein, pour elle. Donc voilà, elle va le faire. Bien sûr, elle cherche géopolitiquement, elle a intérêt à essayer de se mettre en avant et être la bonne élève, mais il faut voir que les exigences, par exemple la question de la transparence, elle a toujours été intransigeante. Elle ne veut pas qu'on regarde chez elle.
Oui, donc peut-être que la Chine n'a pas forcément les moyens de cette ambition de prendre le leadership environnemental.
Absolument.
La question de l'Europe, parce que la semaine prochaine, il y a un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement qui vont se retrouver à Bonn. Angela Merkel devrait être là, Emmanuel Macron va aussi faire le déplacement. Quel est le rôle de l'Europe dans ce type de négociation et quel rôle en particulier face à la Chine, face aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut jouer comme carte, Amida?
D'abord, l'Europe a joui quand même, elle a joui dans le passé et elle jouit encore aujourd'hui d'un crédit important dans cette arène. Donc, elle n'a pas perdu ce capital parce que c'est elle qui a quand même œuvré pour, y compris évidemment l'accord de Paris depuis dans les 4 années qui précédaient, elle a travaillé, etc. Elle était plus ambitieuse et puis maintenant, elle ne manifeste plus clairement son unité politique depuis un certain nombre d'années. Il faut qu'elle la retrouve, sinon elle ne peut pas jouer ce rôle de leader ou au moins de partenaire essentiel pour relancer le processus et le porter de façon plus haut. Donc voilà, et aujourd'hui, on espère, et on espère aussi avec la journée du 12 décembre que le président de la République a organisé à Paris, avec un certain nombre de chefs d'État qui veulent aller plus loin, etc., et relancer des initiatives, en particulier financières et industrielles, avec des partenaires privés, parce que évidemment, c'est essentiel de trouver des partenaires privés et des entreprises qui vont investir.
Oui, donc ce sera aussi un rendez-vous très important. Merci beaucoup, Amida. En gouverner le climat, point d'interrogation, 20 ans de négociations internationales, c'est l'un des ouvrages que vous aviez écrit aux presses de Sciences Po.